Bonjour, moi je porte une histoire, j'ai croisé la route d'une histoire tellement incroyable, tellement extraordinaire qu'elle a changé ma vie, qu'elle est devenue ma vie. Ainsi commençait en 2012 la première pièce d'Alexis Michalik, une formule annonciatrice de nombreuses histoires à venir. Et depuis, bien d'autres sont nées, porteuses de l'histoire de grands hommes, de leur création et d'époques particulières du théâtre. Des fictions historiques qui emplissent tous les soirs les salles parisiennes et font applaudir le public à tout rompre. Avec le Cercle des Illusionnistes, Edmond et Intramuros, Michalik redéfinit les contours d'un théâtre de divertissement qui reprend à son compte les codes, le rythme du cinéma et des séries et les met en scène. Alors que s'ouvre aujourd'hui le Festival d'Avignon, il est plus que temps de se mettre à table pour parler de théâtre populaire. Puissez les yeux rivés vers le sud et les rencontres de la photographie d'Arles que nous prolongerons le voyage en compagnie du moine photographe de l'Himalaya, Mathieu Ricard. Bonjour à tous les deux.
Bonjour, bonjour.
Nous allons parler de théâtre en compagnie d'Alexis Michalik, comédien, auteur, metteur en scène et le comédien Gauthier Batou que l'on retrouve dans le rôle d'Edmond au Théâtre du Palais Royal jusqu'au 16 décembre prochain. Alors on va commencer par en entendre un extrait.
Il n'est pas beau, il est laid.
Mais qui est laid?
Personne, un personnage, mais qui n'existe pas, je cherche mon sujet.
Et vous êtes inspiré par ma laideur?
Oui. Non. Je suis inspiré par votre répartie.
Vous êtes écrivaillon.
Poète, enfin un poète déjà raté à ce qu'il paraît.
Un poète qui a de la dérision, le voilà votre héros.
Mais oui, superbe dans la défaite, merveilleux dans l'échec, en un mot...
Français.
Et brillant duelliste.
Aussi bon rimailleur qu'escrimailleur.
Mais laid, afin qu'à personne il n'ose ouvrir vraiment son cœur.
Je crois que je vois bien le genre de personnage auquel vous pensez.
Ah, il doit bien exister, voyons, 17e siècle. Un mousquetaire, un d'Artagnan artistique.
Mais oui, Hercule de Savinien,
de Cyrano de Bergerac.
Rimaillon connaît ses classiques.
Mais vous-même, comment est-il possible?
De mon père adoptif, j'ai conservé deux choses. Ce café et son amour de la rime et la prose.
Et vous faites des vers, mais qui êtes-vous, monsieur?
Honoré, comme le café. Eh oui.
Edmond Rostand, enchanté et merci.
Alors Edmond Rostand, oui, mais pas l'Edmond qui est sur le plateau aujourd'hui, Alex Michalik.
Oui, je précise que c'est Guillaume Santou que vous venez d'entendre, qui vient de terminer une année au Palais Royal, une année de tournée à Molière. Et là, il prend quelques vacances et c'est Gauthier Batou qui prend la relève après Benjamin Vangermé pendant un an. Et l'autre, Monsieur Honoré, c'était Jean-Michel Martial, le créateur du rôle, qui lui continue de jouer.
Alors pratiquement tous les comédiens ont changé pour cette reprise?
Pratiquement, il y en a qui restent encore un peu, comme Régis Vallien, Ami Alcéa. Et puis il y en a qui continuent, comme Pierre Forest aussi. Puis il y en a qui viennent d'arriver. Une nouvelle équipe, une nouvelle fournée. Puis de moi, j'adore ça. J'adore quand il y a des comédiens en alternance. J'aime bien quand il y a du monde.
Alors avec Edmond et le Cercle des Illusionnistes, pour commencer par ces deux-là, il y a alors deux mises en scène qui se ressemblent un peu. Un lit, un bureau, des comédiens qui débarrassent...
C'est le même metteur en scène, il me semble.
Il me semble aussi, qui débarrassent la moitié du décor. Et puis, ces comédiens qui tournent, qui bougent. Mm-hmm. Alors comment est-ce que, déjà Gauthier Batou, vous décririez ce qui se passe sur scène, puisque ça n'arrête jamais?
Pour ce qui est d'Edmond, je décrirais ça comme un genre d'ouragan très créatif qui est sans arrêt en mouvement, en fait, comme la pensée d'Edmond quand il écrit Cyrano. Et pour le cercle, c'est pareil, c'est une espèce de tourbillon un peu magique. Et d'ailleurs, c'est drôle, les deux pièces se répondent. Il y a des personnages communs aux deux, comme Georges Méliès. Effectivement, c'est le même metteur en scène. Et voilà, je décrirais ça comme un ouragan bienfaiteur.
Alexis Michalik, vous vous intéressez à cette même époque du théâtre, qui est une époque où le théâtre doit aussi vivre des transitions. Alors, il y a à la fois l'arrivée d'Edmond Rostand, et puis on mélange aussi l'arrivée de Méliès, et puis il va y avoir la naissance du cinéma.
Oui, je suis fasciné par le 19e siècle, puisque c'est le siècle du théâtre parisien. Avant ça, à Paris, il n'y a que deux théâtres, hein, la Comédie Française, la Comédie Italienne. Et après ça, il y a l'arrivée du cinéma. Mais entre les deux, eh ben, il y a un moment extraordinaire où le divertissement, c'est le théâtre, et que tout le monde se rue dans le théâtre. Il n'y a pas de télévision, pas d'internet, pas d'ordinateur, pas de télévision, pas de cinéma, il n'y a que le théâtre. Donc on va passer de deux théâtres à des centaines de théâtres, des immenses bateaux à Paris. Et Paris, en plus, à ce moment-là, est un peu la ville culturelle du monde, la ville où il faut être. Donc j'adore cette période.
Alors vous, c'est votre défi de metteur en scène et d'auteur aussi que de défier les écrans qui occupent nos vies, qui occupent le divertissement. C'est d'amener en quelque sorte, alors les écrans au théâtre, pas comme on a pu le voir dans beaucoup de mises en scène où il y a beaucoup d'éléments visuels, mais plutôt d'amener les codes, le rythme, qui est très différent des pièces traditionnelles de théâtre.
Ouais, c'est pas de la concurrence, hein, c'est plutôt au contraire de ne pas faire abstraction d'autres moyens de divertissement, c'est-à-dire de ne pas faire abstraction d'Internet et du rythme auquel aujourd'hui nous on est habitués avec la publicité, avec les programmes courts, avec les séries. Voilà, de ne pas se dire, bon, bah, nous on va rester sur un traditionnel 5 actes au théâtre où on ferme le rideau entre chaque scène et où on a une petite musique de transition, mais au contraire, on va essayer d'amener ce souffle, ce rythme auquel aujourd'hui, à cause du montage qui est de plus en plus serré, on est complètement habitué en tant que spectateur.
Ah ouais, le montage serré, Gauthier Batou, il est serré en live.
Gauthier Batou a chaud, et les autres aussi, on a des costumes en laine, des projecteurs qui chauffent beaucoup, une salle qui est climatisée pour les spectateurs, mais sur le plateau ça l'est un peu moins, et effectivement on bouge énormément, et il y a beaucoup de changements de décors, de transports, d'accessoires, de trucs, et c'est vrai que... on a très chaud.
Et encore pour Gauthier, lui, il jouait de monde, donc il est beaucoup sur scène, alors que les autres personnages, eux, ils passent beaucoup de temps à déplacer des portes, des lits, des...
donc on est acteur et manutentionnaire en même temps.
Exactement, c'est ça. Ouais.
Alors il y a cette idée d'emboîter, alors vous, des procédés modernes qui seraient ceux d'un montage fait au théâtre, mais il y a aussi l'idée d'un retour à l'histoire. Alors là, vous racontez des histoires, vous les racontez, mais d'ailleurs vous les racontez pas tout à fait, Alexis Michalik, puisque vous brodez autour des histoires, ce ne sont pas vraiment les vrais événements historiques, en tout cas pas tous.
Vous voulez dire que je ne suis pas documentariste?
Je veux dire que vous racontez des choses à votre manière.
Avec lesquelles je prends quelques libertés.
Quelques libertés.
Si je peux me permettre, c'est une fiction réaliste.
Exactement.
Comme dit Rostand.
En fait, c'est comme Cyrano, ou c'est comme toutes les pièces de Shakespeare, en fait, hein, ou tous les romans de Dumas. Ça n'est jamais exactement l'histoire, mais c'est fortement inspiré. Et Dumas disait, si j'ai violé l'histoire, je lui ai fait des beaux enfants.
Bah, je vous souhaite la même carrière, c'est sûr.
Merci.
Qu'est-ce que vous pensez justement de cette manière d'imbriquer à la fois la biographie, puisque Edmond n'est pas tout à fait Edmond Rostand. Edmond, c'est le Edmond Rostand vu par Alexis Michalik, donc il y a à la fois les éléments de sa vie, mais aussi son théâtre. Donc vous, Gauthier Batou, vous retrouvez à la fois à dire les vers d'Edmond Rostand pour la première de Cyrano, et en même temps à dire du Michalik.
Ouais, c'est assez schizophrénique, mais c'est ça qui est beau en fait. Je pense dans cette pièce qui marche, et l'audace, c'était cette idée très maligne de se servir de la structure de Cyrano et de l'adapter à une fiction haletante, parce que en fait Cyrano avait déjà connu le succès avant. Là dans la pièce, il commence, c'est un loser, et puis de plus en plus il va vers son apogée. Alors qu'en réalité, ça avait déjà commencé quelques années avant, mais c'est beaucoup plus intéressant de prendre. Ça rend le personnage plus attachant et ça rend la pièce beaucoup plus fulgurante, quoi.
Alors on va écouter Jean Cocteau parler justement de réinventer le théâtre.
Jean Cocteau vous parle.
Roméo et Juliette, dans ma version contractée, c'est-à-dire cherchant à ne conserver d'un chef-d'œuvre que ses sommets et ses pointes, à ne pas l'alourdir par l'intraduisible, a été donné pour la première fois le lundi 2 juin 1924 à ces grandes soirées de la Cigale qui correspondirent littérairement au grand spectacle de danse du ballet russe de Serge de Diaghilev. Ces spectacles comportaient en outre des ballets, avec les décors de Picasso, de Braque, de Derain, et Levinson témoigne que ce Roméo et Juliette fut dans son genre une sorte de mise en scène chorégraphique, en ce sens que j'en avais réglé les moindres gestes et que ces gestes relevaient de ce réalisme irréel propre à la danse. Des Ormières avait accompagné le spectacle d'une adaptation de vieux airs anglais exécutée par un petit orchestre. De tels spectacles, hélas, sont devenus presque irréalisables. Ils exigent, outre de grosses dépenses, une autre dépense d'énergie et de travail manuel, à quoi notre terrible époque de tumulte s'oppose. Il faudra donc que l'auditeur imagine une beauté morte et qui remplaçait en quelque manière les longs passages de textes trop difficiles, selon moi, à faire passer d'une langue dans une autre.
On était en juillet 1953 sur la RTF, Alexis Michalik, et déjà, il fallait réinventer le théâtre, faire le tri, contracter le texte, contracter aussi les éléments,
les moyens,
et puis faire déjà de la manutention, mais il y a aussi ce travail de convoquer un imaginaire et évoquer peut-être les conventions théâtrales permettent ça aussi de faire l'économie.
Mais même bien avant, je reviens toujours à Shakespeare, mais Shakespeare c'est pareil, c'est la convocation de l'imaginaire, c'est quand il est dans le songe d'une nuit d'été et que le magicien Oberon va dire je suis invisible, en fait il fait appel à l'imaginaire du public, il n'y a pas de la vraie magie, il devient pas vraiment invisible, mais le théâtre c'est l'art de la convention. Donc avec peu de choses en fait, contrairement au cinéma où il faut des moyens puisque c'est le cinéma du réel, avec peu de choses, on peut vous faire voyager les gens. Et c'est le cas dans toutes les pièces de Shakespeare, quand il raconte des batailles extraordinaires. En fait, l'inventivité peut permettre ce voyage-là. Donc, c'est pas une question de moyens, je pense.
Alors, vous, dans le cercle des illusionnistes, vous en faites un peu de la vraie magie sur scène quand même. On fait deux, trois tours pour voir un peu si le public va réagir, va accrocher un peu. Et après, on fait semblant.
Oui, mais même dans le cercle des illusionnistes, on a l'impression qu'il y a un décor qui tourne, qui arrive, qui est très riche, alors qu'il n'y a pas grand-chose en réalité. Il y a surtout des trucs et astuces. C'est d'ailleurs c'était un peu la trame de la pièce. On dit qu'il y a toujours un truc. Donc, dans le cercle, eh ben, il n'y a que, entre guillemets, 6 acteurs pour faire tous les rôles. Et ils se changent en permanence. Ils ont des costumes truqués. Il y a des petits trucs et astuces. Mais au final, tout est au service de l'histoire. Moi, tous mes spectacles sont toujours au service de l'histoire. Et donc, tout ce que je peux trouver comme moyen, comme bout de ficelle, comme inventivité pour rendre l'histoire plus universelle et afin de l'amener à un public le plus large possible, eh ben, je prends et j'essaie de l'appliquer.
Alors, vous parliez des costumes. On peut parler aussi du texte. Comment est-ce qu'on fait pour jongler entre ces registres-là? Alors, vous aimez les superpositions, alors soit les histoires intriquées et les comédiens qui, justement, eux-mêmes jouent plusieurs rôles. Vous, ça n'est pas votre cas, Gauthier Batou, trop dans ce spectacle, mais la plupart des comédiens...
Moi, je fais juste Edmond, et c'est vrai que les autres ont plein de... Par exemple, il y en a un qui fait Fedot, il fait aussi le régisseur du théâtre, Anton Tchekhov... Un chef de gare, voilà.
Moi, ça vient principalement personnellement du fait que je suis comédien à la base et que j'aime pas quand les comédiens s'ennuient sur un spectacle. Bon, j'ai une haine de l'ennui, hein, que ce soit pour les spectateurs, pour moi en tant que spectateur de mes spectacles et pour les comédiens sur le plateau. Et donc, j'aime bien qu'ils aient toujours quelque chose à faire. Donc, mes spectacles sont toujours la distribution minimum qu'on puisse amener pour ce spectacle.
C'est-à-dire jusqu'au maximum de la capacité d'un comédien à enchaîner.
Exactement. Voilà, pour que vraiment, parce qu'un acteur, tant qu'il joue, il est heureux.
Mais alors, du coup, c'est la même chose pour le public, le maximum de la capacité à suivre et à absorber.
Ah, bien sûr, il faut que ce soit tourné vers... Non, mais c'est ce que je dis, moi j'essaie de faire un théâtre qui soit limpide, parce que je raconte des histoires qui sont denses, et j'aime pas le mot compliqué, mais en tout cas où il y a beaucoup de choses à suivre, et beaucoup d'époques, et qui s'entrecroisent, etc. Eh bien, il faut que l'attention du public soit tendue en permanence, et que nous, le travail des acteurs, de la musique, de la vidéo, de tous nos moyens à nos dispositions, c'est que cette histoire soit limpide.
Alors pardon de faire la comparaison, mais comme vous utilisez vous-même les idées de comparaison avec des séries télévisées, on est un peu dans un théâtre un peu Netflix où à bout de quelques secondes ça va s'enchaîner, on arrive à l'épisode d'après.
Ouais, mais je pense pas que ce soit une mauvaise chose en fait. Moi je fais un théâtre narratif, populaire, exigeant. J'essaie justement de faire en sorte que le théâtre, enfin après c'est grandiloquent de dire ça, hein, mais que le théâtre soit pas perçu comme quelque chose de ringard, de poussiéreux, d'ennuyeux.
Ni délitiste.
C'est vrai que ça rejoint. Enfin, c'est-à-dire que moi j'ai des gens dans ma famille, par exemple, qui travaillent dans des assurances ou qui sont consultants, qui vont jamais au théâtre, c'est pas leur truc, et puis qui ont adoré Edmond bien avant de savoir que j'allais jouer dedans. Je leur avais offert à Noël la place, et ça rejoint à la fois les gens qui aiment le théâtre, les gens du métier, et aussi ceux qui a priori c'est pas leur truc, quoi.
Mais synthétiser même, je dirais juste que on parlait d'Avignon qui commence aujourd'hui. C'est une culture du off. Quand on est dans le off, et ben en fait il faut faire venir les gens voir son spectacle, et ça ne fonctionne que par le bouche à oreille.
Mais en quoi ça se distingue du théâtre populaire qu'on a pu connaître? Alors vous faites allusion à Fedot, aux comédies, mais il y a aussi toujours eu un théâtre populaire qui a fait venir.
Je ne prétends pas avoir inventé quelque chose. Hein. Moi, je m'inscris dans une continuité. J'ai des maîtres à penser, j'ai des metteurs en scène que j'admire, comme Nouchkine, comme Brooke, comme Simon McBurney. Et puis j'ai aussi des séries que j'adore, comme 24 heures chrono, ou Lost, ou Friends, ou n'importe quoi, et des BD que j'adore. Et tout ce que j'aime, en fait, contribue à construire une œuvre, parce que quand on raconte, on crée une histoire, en fait, on est forcément imbibé de tout ce à quoi on s'est exposé. Donc c'est à la fois quelque chose de très pointu, un théâtre un peu pointu, riche, parfois élitiste, mais avec une mise en scène brillante, et à la fois des choses issues de la culture populaire. Et j'essaie de faire cette mixture et de raconter mes propres histoires.
Le théâtre de l'expression populaire doit être un théâtre pour les masses. Actuellement, les masses ne vont pas au théâtre et c'est la grande raison de la crise que traverse le théâtre actuellement. La saison d'été 47 est morte, sans sépulture. Quand on forme le projet de créer un répertoire pour le théâtre du peuple, il y a deux erreurs principales à éviter. La première est de se dire, le peuple ne va pas au théâtre actuel parce que ce théâtre est, par exemple, trop littéraire, peut-être trop profond, peut-être trop philosophique, trop hermétique. Et par conséquent, pour attirer le peuple, il faut descendre d'un cran, le faire moins sérieux, moins fin, moins poétique et plus compréhensible. Cette erreur est d'autant plus répandue que la même question se pose pour la musique. Quand il y a la musique symphonique que le peuple ne comprend pas et ne fréquente pas les concerts ou n'écoute pas la TSF, on se dit qu'il faut commencer par quelque chose qui apprendra à comprendre. Et cela est vrai. Et cela est vrai parce que dans la musique, il n'y a que l'émotion. Dans le théâtre, en dehors de l'émotion, il y a encore l'intelligence.
Alors, une erreur à éviter, descendre d'un cran dans le théâtre populaire. Alors, comment est-ce qu'on fait pour ne pas être élitiste d'un cran?
Déjà, si j'avais eu à diriger ce monsieur, je lui aurais dit, il faut parler un peu plus vite. Hein, parce que c'est les pauses. S'il y a un comédien qui parle comme ça, je lui dis, je n'ai rien entendu de ce que tu m'as dit parce que je me suis endormi au milieu.
Alexandre Pilenko, qu'on entendait dans la Tribune de Paris, c'était en 1947.
Parce qu'à part la diction, ça aurait pu être dit aujourd'hui, finalement. Si juste ce qui se dit, c'est les mêmes problématiques.
Oui, complètement. Ouais. Mais depuis toujours, je pense. Hein. Le théâtre, c'est un art millénaire. Faut pas l'oublier. Et c'est pour ça que c'est un art qui existera toujours, en fait, parce que c'est extrêmement simple à créer, le théâtre. Il suffit d'avoir des acteurs, des spectateurs, une histoire. Alors que le cinéma, ça évolue, hein, d'année en année. Le théâtre, bon, bah, depuis 2000 ans, c'est des acteurs, des spectateurs et une histoire. Hein.
Alexis Michalik, je reprends cette question. Comment on fait pour ne pas descendre d'un cran, tout en proposant d'aller au théâtre à des gens qui, peut-être, en ont moins l'habitude?
Ben je ne sais. En tout cas, moi, c'est pas un combat que je mène. Hein. Je suis pas quelqu'un. Je suis pas un théoricien du théâtre. En fait, je me contente de d'être ému moi-même par une histoire, soit parce que je l'apprends, soit parce que je lis un petit bout d'anecdote et je me dis tiens, ça pourrait donner quelque chose d'intéressant, soit parce que je traverse moi-même une expérience qui me donne une idée. Et ensuite, cette idée, je la développe. Et puis, au bout d'un moment, en fait, je me retrouve avec cette histoire et cette histoire, elle m'émeut moi personnellement, puisque je suis le premier spectateur. Et je me dis si elle m'émeut, alors elle pourra émouvoir d'autres gens si je la leur raconte. Et ensuite, j'essaie de la mettre en œuvre avec les moyens que j'ai à disposition. Et puis, une fois que je l'ai, eh ben, je suis encore une fois le premier spectateur. Et puis ensuite, je la présente à d'autres gens, etc. Puis au bout d'un moment, je la présente à des spectateurs. Et puis s'il y a des gens qui aiment, eh ben, c'est super. S'ils sont touchés, c'est qu'ils s'en dégagent quelque chose. Je ne suis pas le porteur d'un message, en fait. Moi, je me contente...
Vous êtes un porteur d'histoire, si vous l'avez dit. Hein.
Et de spectacle en spectacle, eh ben, en fait, voilà, je ne suis que mu par ma propre envie de raconter, en fait. Maintenant, le reste ne dépend pas de moi, ça me dépasse, en fait. Il n'y a pas tout ce que je fais, moi, c'est prendre des acteurs et dire allez, on va créer quelque chose ensemble et essayer de me renouveler spectacle après spectacle et de pas faire quelque chose de mécanique, justement, de trop ah bah ouais, voilà, il y a encore des décors qui changent et là, mais c'est la même histoire à chaque fois. Donc c'est tout ce que je peux faire, moi, en tant qu'artiste. Le reste, je laisse ça aux commentateurs, aux critiques, aux journalistes, à des gens qui vont y trouver un sens, un ensemble, un tout. Moi, modestement, ce que je fais, c'est un métier d'artisan, pas d'intellectuel.
Gauthier Batou, vous avez rejoint ce spectacle récemment qui a été repris. Alors, les trois spectacles, justement, repris dans plusieurs salles parisiennes. Et des troupes, hein, c'est un fonctionnement en troupe, ouais. Les fonctionnements de ces spectacles aussi.
Ben, tout à fait. Ouais. Par exemple, donc là... Personnellement, c'est ma quatrième, avec le reste de l'équipe aussi, les huit comédiens nouveaux qui ont rejoint Edmond. Et c'est assez drôle parce que, par exemple, on a rencontré Jean-Michel Martial sur scène quasiment parce qu'il tournait un film. Donc, pour venir en répétition, c'était compliqué. Et en fait, c'est formidable parce que on a une qualité d'écoute dans ces cas-là où on est tellement sur un fil et on a tellement peur qu'on est obligé de se plonger dans les yeux de son partenaire ou de sa partenaire. Et ça donne un truc assez magique. Alors bon, après, pour le rythme, faut faire gaffe parce que parfois, il y en a qui jouent pas exactement pareil que les autres. Et heureusement d'ailleurs. Du coup, faut vraiment être très attentif. Mais je trouve ça grisant et excitant. c'est quelque chose d'assez magique, ouais.
Donc du coup, vous avez vécu un peu la même expérience que le personnage d'Edmond, à savoir, il faut monter la pièce très très vite, en urgence.
Concrètement, Edmond Rostand, c'est quelqu'un qui doit écrire un chef-d'œuvre très rapidement dans la pièce de Michalik et qui est dépassé par tous les événements. Je crois que c'était un peu ce qui s'est passé le mois dernier. Il y a eu beaucoup d'engagements qui m'emmenaient ailleurs qu'en répétition, notamment mon mariage, plus une autre série. Et donc c'était, je courais, si vous voulez, après le train des répétitions d'Edmond, comme Edmond court après le train de son écriture de Cyrano.
Mais t'es pas du tout quelqu'un de stressé ou...
Non, ça va.
Alexis Michalik, en ce qui concerne justement ces aspects et ces procédés qu'on retrouve sur scène, il y a une volonté un peu pédagogique. On va chercher une histoire et on va la raconter. Il va y avoir d'ailleurs un monsieur loyal qui va faire le fil conducteur. Il y a cette pédagogie et la musique qu'on retrouve, qui nous fait penser un peu aux séries françaises de télé, presque aux vieux téléfilms.
On va quand même dire au cinéma aussi un petit peu, hein, parce que la musique de séries françaises de télé, c'est peut-être un peu
le fait d'utiliser de la musique. Le fait d'utiliser de la musique comme ça.
C'est très cinématographique, hein. Moi, mes pièces, elles correspondent plutôt à une structure cinéma. Ça dure 1h40, ça dure moins de 2h, et l'utilisation de la musique est très cinématographique, c'est-à-dire qu'elle soutient beaucoup l'émotion et je fonctionne toujours avec des musiciens qui vont me fournir énormément. Et la première partie, c'était quoi
La première partie, c'est la question pédagogique.
La question pédagogique.
Parce que vous utilisez quand même un thème qui était... Alors, il y a déjà le théâtre, l'art du théâtre en lui-même, le cinéma aussi, sont des thèmes qui reviennent aussi.
Ce qui est marrant, c'est que je parle... Ouais, en fait, mais c'est quelque chose d'un peu involontaire. C'est-à-dire que moi, je pense qu'il y a deux types d'auteurs. Il y a les auteurs qui parlent d'eux tout le temps, qui font de l'autofiction et on les aime pour ça. Et puis il y a les auteurs qui parlent pas d'eux. Moi, personnellement, ma vie est pas très intéressante, donc je vais toujours chercher mes sujets ailleurs. Sauf que, en fait, on finit toujours par parler de soi, même quand on le veut pas. Et donc, quand on analyse un peu mes quatre spectacles, on se dit, il y a quand même des thématiques très récurrentes. Et l'une d'entre elles, c'est le théâtre, en fait. Et je me retrouve toujours à parler du théâtre. Même quand je parle de la prison, je vais parler du théâtre. Je vais parler du pouvoir du théâtre. Et évidemment, le théâtre, c'est pas juste le théâtre. C'est le pouvoir du récit, c'est le pouvoir évocateur. C'est ce qui fait qu'on est humain, parce qu'au fond, ce qui nous rend humain, c'est l'art. Ce qui nous rend humain, c'est notre capacité à se raconter des histoires et à y croire. Tout notre système, que ce soit la justice ou la démocratie, c'est fondé sur des histoires auxquelles on croit. Donc je suis passionné par ça. Je suis passionné par le fait de raconter des histoires, c'est un peu ma thématique du porteur d'histoire d'ailleurs, et par la grande histoire. Et j'essaie d'entremêler les deux. J'essaie d'entremêler la fiction et les réalités parce que c'est des thèmes qui me passionnent.
Mais c'est une manière particulière de faire du théâtre que de mettre cette pédagogie-là au service et d'accompagner le spectateur. Il y a aussi des théâtres qui créent le mystère, voire même une barrière, une distance avec le public qui, lui, doit rentrer dans le spectacle.
Mais
et alors ?
Eh bien, la différence entre le théâtre privé et le théâtre subventionné, c'est que le théâtre privé, s'il n'y a personne dans la salle, le spectacle s'arrête, en fait. Alors que le théâtre subventionné, s'il n'y a personne dans la salle, c'est pas grave.
Alors ça veut dire que le mode de financement du spectacle va changer la forme du spectacle ?
Bien sûr, l'économie du théâtre, c'est quelque chose qui complètement dirige aussi mes choix, en fait. Pourquoi est-ce que j'ai le minimum d'acteurs sur scène ? Aussi parce que plus il y a d'acteurs, plus le spectacle coûte cher, et plus le spectacle coûte cher, plus il faut des gens dans la salle pour parvenir à l'équilibre. Et si je veux avoir des spectacles qui durent et qui font que les acteurs y jouent longtemps et que ce spectacle y continue, et ben il faut que je pense à cet équilibre économique. C'est quelque chose qui vient encore une fois du off. Quand on amène un spectacle dans le off à Avignon, et ben le but c'est de pas perdre sa chemise, en fait. Le but c'est, même si on porte une histoire, même si on raconte quelque chose, le but c'est pas de repartir en disant je referai plus jamais un spectacle parce qu'en fait j'ai perdu trop d'argent. Donc c'est quelque chose qui est présent dans ma conception de la mise en scène. Je suis pas un pur artiste qui est complètement ignorant de ça. Moi, au contraire, après c'est pas pour ça que je fais du théâtre. C'est ni pour gagner de l'argent ou pour. Mais clairement, j'ai envie que ces spectacles ils jouent longtemps. Je supporte pas l'idée de passer un an ou deux à concevoir un spectacle et qu'il joue 30 fois. Pour moi, c'est vraiment triste, c'est un peu dommage. Et donc, dans l'équation, il faut penser à ça. Il faut penser à pas rebuter un public parce qu'on a envie d'un caprice personnel. Il faut penser à ce que, il faut arriver à rendre accessible ce spectacle à tout le monde, au plus large public possible. C'est ce qu'on appelle un théâtre populaire, quoi.
Gauthier Batou, dans le spectacle Edmond, il y a une allusion, un petit clin d'œil au théâtre public avec la Comédie Française, cet administrateur qui veut faire interdire le spectacle. Alors, c'est un petit clin d'œil aussi aussi à la manière dont se passent les choses aussi d'un hors scène, dans les coulisses du théâtre.
Oui, il y a toujours cette petite guéguerre, théâtre privé, théâtre public, mais qui en fait, je trouve qu'il y a de plus en plus de spectacles où les deux se rejoignent, et ce qui compte, c'est que les spectateurs soient heureux et que l'œuvre transmette le message qu'elle voulait transmettre. Mais c'est vrai qu'il y a ce petit clin d'œil, comme au théâtre aussi privé extrêmement populaire de Fedot, auteur à succès. C'est pareil, c'est-à-dire qu'il y a la guerre à l'intérieur du théâtre privé entre les spectacles un peu intelligents, intellectuels, et les spectacles vraiment très popu, machin. Mais bon, moi je trouve que c'est un peu... D'ailleurs, tu t'en moques dans la pièce, Alexis, quand tu l'écris, c'est un peu une guéguerre ridicule, et je trouve que faut la prendre comme ça, parce que
je dis pas non plus qu'il y a un bon et un mauvais théâtre. Moi, encore une fois, les metteurs en scène que j'ai cités tout à l'heure,
c'est
des gens qui étaient subventionnés. Ouais. Donc, c'est pas du tout mon propos. Je dis juste que moi, venant du privé et étant là-dedans, j'ai forcément cette notion économique quand je monte un spectacle.
Alors, il y a une question que j'avais envie de poser en matière d'écriture. Comment est-ce que vous écrivez vos spectacles, puisque on disait que dans Edmond il y avait du Michalik, mais il y a aussi du Rostand qu'on entend beaucoup dans son texte. Alors, comment est-ce qu'on entremêle ces deux écritures-là? Comment est-ce que justement on appose son écriture à celle d'un auteur?
Ça dépend des spectacles. Dans Edmond, en l'occurrence, le challenge c'est un challenge structurel. C'est comment arriver à mettre Cyrano dans la pièce, c'est-à-dire à la fois raconter Cyrano sans jouer Cyrano, sans que ce soit uniquement Cyrano. Donc ça prend du temps, ça prend plusieurs couches, on le fait lire, et puis on le relit, et puis comme un scénario en fait, il y a une, deux, trois, quatre diversions, jusqu'à ce qu'on arrive à quelque chose qui nous satisfasse.
Donc vous faites quoi? Vous faites le narrateur de l'histoire, le narrateur qui raconte une histoire possible de la première de Cyrano de Bergerac, une version possible de la vie de Rostand?
Moi j'écris comme un scénariste en fait, c'est-à-dire que j'ai d'abord un synopsis, je sais quelle va être ma fin, quelle va être mon début, et après je me dis qu'est-ce qui se passe au milieu, et puis ensuite je développe les personnages, je développe une bible de caractère, et puis au bout d'un moment, j'appose des dialogues, je commence à poser des dialogues. Mais j'essaie de pas avoir tout le temps la même méthode. Là, je parle d'Edmond, évidemment, c'est particulier Edmond, parce que c'était d'abord un film, c'était d'abord un scénario de film qui est devenu une pièce qui finalement est devenu un film, donc c'était vraiment pour le coup un scénario. Mais mes autres spectacles, il y en a pas un que j'ai fait de la même manière. Le Cercle des Illusionnistes, je l'ai écrit à table, j'ai écrit peut-être 17 versions de la pièce avant qu'on arrive à la première. En revanche, Intramuros, il a été entièrement créé au plateau. C'est-à-dire que je suis arrivé avec une trame, une histoire très détaillée, mais avec très peu de dialogues. Et on a trouvé ces dialogues en cherchant au plateau avec les comédiens.
Troupes, avec
absolument,
les comédiens.
Qui étaient dans ce qu'on appelle des improvisations dirigées. J'aime bien qu'à chaque création, il y ait la méthode qui corresponde à cette création. En l'occurrence, dans Edmond, il fallait un langage 19e siècle, il fallait jouer avec les mots de Rostand, il fallait des alexandrins, donc ça ne pouvait être qu'un travail littéraire.
Alors, outre Intramuros, qui est une création ex nihilo, le Cercle des Illusionnistes, mais aussi Edmond, il y a des personnages historiques, des personnages qui ont existé. Il y a Coquelin, il y a Sarah Bernard, il y a Rosemonde Gérard, il y a Fedot. Et ces gens-là, vous ne les inventez pas, ces personnages-là.
C'est
donc
vrai.
Qu'est-ce que vous en faites? Est-ce que c'est une fiction historique?
Moi, je suis évidemment que je me renseigne énormément sur tout, c'est-à-dire sur chacun des personnages, je connais leur vie par cœur, et quand je m'amuse avec eux, je sais exactement là où je mens et là où je raconte la vérité. Il y a toujours des clins d'œil réalistes.
Ah, vous admettez mentir parce que vous mentez, hein. Vous savez, Gossier Batou, qu'il y a des mensonges dans cette pièce.
Ah oui, il y en a, mais c'est assumé.
Mais le public ne le sait pas forcément qu'Edmond Rostand était d'un milieu aisé, que Ravel n'a pas écrit son Boléro à ce moment-là.
Mais il y a le petit indice. Je pourrais répondre dessus, parce que Ravel, il a peut-être pas écrit son Boléro à ce moment-là, mais il avait 20 ans en 1897, et moi, il y a 15 ans, j'avais déjà l'idée d'Edmond en tête, donc j'ai pas écrit Edmond il y a 15 ans, mais j'avais déjà dans la tête. Donc qui sait si Ravel il l'avait pas déjà dans la tête? Donc ce que je vous dis, c'est que tout ça, c'est quelque chose auquel j'ai réfléchi, auquel je m'attends à ce qu'on me dise oui, mais quand même, attends, et je dis non, c'est possible en fait. Évidemment que Fedot n'était pas forcément ce type-là. Fedot, c'était un type très sympa, très content du succès des autres, mais je trouve ça beaucoup plus drôle d'en faire un espèce de winner, insupportable. Donc tout ça, c'est tout à mes consciences. Rosemonde Gérard, évidemment que la femme de Rostand, elle était beaucoup plus brillante que ça, elle l'accompagnait, elle l'aidait et tout se passait bien, mais s'il y a ça, en fait il n'y a pas d'histoire. Et c'est un peu ce que dit Edmond à un moment, si Cyrano décide de ne pas aider Christian, il n'y a pas d'histoire en fait. Donc à un moment, pour qu'il y ait une histoire, il faut qu'il y ait de l'invention, il faut quelque chose de nouveau. Donc tout ça, c'est comme Dumas, comme Shakespeare, quand il écrit Richard III, Richard III n'était probablement pas ce monstre-là, mais il en fait un monstre en fait. Donc comme tous ces grands auteurs, et bien, en fait, je pars de quelque chose et puis je m'amuse avec. Et je ne prétends pas faire un documentaire, je prétends raconter des histoires.
Non, c'est après, la vie d'un personnage qui a réellement existé, mais librement fantasmé, comme dit Edmond. D'ailleurs, c'est malin parce que du coup, tu t'en débarrasses de cette question.
Bah, c'est ce que fait Edmond avec Cyrano, exactement.
Ouais, bien sûr. Ouais.
Gauthier Batou, comment vous avez pris justement ce personnage qui était lui-même joué par un autre comédien, qui est un personnage aussi historique. Alors, il y avait plein de rôles qui s'entremêlaient dans le vôtre.
Alors, j'ai eu peur, voilà, au début, parce que c'est pas du tout le genre de personnage que j'ai l'habitude de jouer au niveau de l'attitude, du caractère. J'étais surtout très impressionné par Benjamin Van Germé et Guillaume Santou qui ont fait un travail super sur le rôle d'Edmond. Puis Thomas Oliveres aussi dans le film qui, je pense, va être génial. Et j'ai eu la pression, donc je me suis dit je vais surtout bosser, me renseigner, lire ce que je pouvais sur Edmond Rostand. Et après, ça s'est passé en répétition avec Alexis. Voilà, dans sa direction, il m'a dit tout de suite « Tu te tiens trop droit, t'es content de toi, t'as la voix pleine. » Il me dit « T'as trop confiance en toi, on n'a pas d'empathie. Donc change ton attitude, change ta posture d'épaule et on aura plus d'empathie. » Et c'est vrai que c'est comme ça que j'ai commencé à trouver un peu plus le personnage.
Merci Alexis Michalik et Gauthier Batou d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Alexis Michalik, trois de vos pièces tournent en ce moment dans les pièces parisiennes. Il y en a quatre, effectivement. Il y a Edmond au Palais Royal, dans lequel on vous admire, Gauthier Batou, il y a le Cercle des Illusionnistes, il y a
à la Renaissance, Intramuros à la Pépinière, et il y a le Porteur d'Histoire au Bélier Parisien. In New Orleans, call it the rising sun, and it's been the run of many poor girls. Me, oh Lord, I'm one. If I listen what my mama said, be at home today, being so young and foolish, my Lord, let a gambler lead me astray. My mother, the tailor,
The House of the Rising Sun, c'était Nina Simone.
France Culture, la grande table d'été, par Maëlys Bessery.
La photographie serait-elle la poursuite de la spiritualité par d'autres moyens ? L'apprentissage d'une observation patiente, méditative, aussi profonde que la beauté que peut offrir l'Himalaya à celui qui sait l'attendre. Un regard intérieur qu'expose sous nos yeux le photographe, moine, scientifique, écrivain, Mathieu Ricard. Mathieu Ricard est aujourd'hui l'invité du portrait de la grande table d'été. Mathieu Ricard, bonjour.
Bonjour.
On va commencer par une petite lecture de Julien Rosa.
Il est donc arrivé là ce qui est arrivé généralement pour toutes les choses qui jouent, un titre ou un autre, un rôle dans l'existence humaine. Ces choses ont été dépouillées peu à peu de tout caractère sacré ou traditionnel. Et c'est ainsi que cette existence même, dans son ensemble, est devenue toute profane et s'est trouvée finalement réduite à la basse médiocrité de la vie ordinaire telle qu'elle se présente aujourd'hui. Ce que nous avons dit du caractère quantitatif par excellence de l'industrie moderne et de tout ce qui s'y rapporte permet de le comprendre suffisamment. En entourant constamment l'homme des produits de cette industrie, en ne lui permettant pour ainsi dire plus de voir autre chose, sauf comme dans les musées par exemple, à titre de simple curiosité, n'ayant aucun rapport avec les circonstances réelles de sa vie, ni par conséquent aucune influence effective sur celle-ci, on le contraint véritablement à s'enfermer dans le cercle étroit de la vie ordinaire comme dans une prison sans issue. Dans une civilisation traditionnelle au contraire, chaque objet, en même temps qu'il était aussi parfaitement approprié que possible à l'usage auquel il était immédiatement destiné, était fait de telle façon qu'il pouvait à chaque instant, et du fait même qu'on en faisait réellement usage, au lieu de le traiter en quelque sorte comme une chose morte, ainsi que le font les modernes pour tout ce qu'ils considèrent comme des œuvres d'art, servir de support de méditation, reliant l'individu à quelque chose d'autre que la simple modalité corporelle, et aidant ainsi chacun à s'élever à un état supérieur selon la mesure de ses capacités. Quel abîme entre ces deux conceptions de l'existence humaine.
Alors, cette lecture est l'extrait du règne de la quantité et
René Guénon.
René Guénon.
Deviné.
Absolument. Je le précise, c'est un texte de 1972. Alors qu'est-ce que justement ça nous dit ce texte-là, puisque c'est l'une de vos premières amours.
Oui, quand j'étais adolescent, c'est vrai que j'ai relu récemment certains de ses écrits, disons, c'est un tout petit peu quand même, c'est plutôt exactement la même vision des choses que j'ai maintenant. Mais c'est vrai que, oui, si vous voulez, notre épanouissement dans l'existence va être entièrement projeté sur les conditions extérieures, c'est comme d'essayer de gagner à la loterie, parce que notre contrôle du monde extérieur est par nature limité, éphémère, souvent illusoire. Et donc, bien sûr qu'il faut se mettre au service de l'humanité et des plus pauvres. C'est ce que je fais personnellement du matin au soir au travers des projets humanitaires de Karuna Sechen. Mais si on néglige complètement toutes les composantes intérieures de l'épanouissement, ce que les Grecs appelaient eudémonia, c'est-à-dire de l'accomplissement, de trouver la sagesse, la paix intérieure, la liberté intérieure par rapport aux poisons mentaux, voilà, si vous voulez, on ne peut pas espérer s'épanouir dans l'existence en négligeant tout ça.
Mais Mathieu Ricard, qu'est-ce que c'est justement que la quête artistique dans tout ça ? Est-ce que c'est la perpétuation justement de cette quête intérieure ? Est-ce que c'est la même chose ? Ou est-ce que c'est encore une énième projection, peut-être plus belle, peut-être plus esthétique ?
Oui, alors, dans un monde traditionnel, comme le disait Guénon, notamment au Tibet, l'art est uniquement conçu dans un chemin spirituel. C'est-à-dire qu'au lieu de faire du jogging, on tourne autour de monuments sacrés. Au lieu de faire du dessin normal ou des portraits de son chat ou de ses enfants, on fait des icônes. L'équivalent des icônes qui sont des tankas, qui sont des images, qui sont des supports de méditation et de visualisation. Au lieu de faire de la musique qui exacerbe les émotions ou de la danse qui exacerbe les émotions, c'est des musiques sacrées et des danses sacrées qui libèrent par la vue ou par l'ouïe. Et libérer de quoi ? Libérer de la colère, libérer de la jalousie, libérer de l'arrogance, libérer de tout ce qui empoisonne notre esprit, empoisonne notre bien-être et empoisonne celui des autres.
Donc ce sont des supports.
L'art est un moyen d'utiliser les tendances, l'élan naturel que l'être humain a de chanter, de danser, de dessiner, pour en les transformer en éléments de transformation sur le chemin spirituel.
Alors vous, qu'est-ce que justement vous avez expérimenté de ce chemin artistique-là, puisque la photographie, vous l'avez découverte avant même de découvrir le bouddhisme, pourtant que vous avez découvert jeune, à 21 ans, et vous étiez aussi d'une famille d'artistes avec une mère peintre.
Oui, tout à fait, ma maman, Yann Le Toumelin, a 95 ans, et elle ne peint plus, mais... La peinture, évidemment, 70 ans de peinture. D'ailleurs, nous avons fait un livre l'année dernière aux éditions de La Martinière. Lumière, rire du ciel, c'est un beau titre. Alors, si vous voulez, je ne veux pas être trop pédant à propos de ce que je pourrais appeler mon art photographique. Je ne me sens pas vraiment être un artiste. Moi, ce que je souhaite, c'est de partager, non pas de fixer le moment en prenant un portrait d'un maître spirituel ou d'un paysage extraordinaire, mais de le sortir du temps pour pouvoir le donner, le partager à d'autres, pour pouvoir que ces visages inspirent d'autres personnes, que ces paysages suscitent un émerveillement qui se traduira par le respect de la nature, ou pour donner une bonne idée de la nature humaine fondamentale, au lieu de tomber dans le syndrome du mauvais monde, pensant que l'homme est mauvais, que de toute façon on va à la catastrophe. Donc c'est plutôt cela que de me prendre pour... un artiste de grand talent, ça, c'est pas mon style.
Quoi. Non, mais est-ce que pour vous, c'est la même chose? Est-ce que c'est la même quête? Vous, l'observation non, que vous avez pu avoir de la peinture
Je ne pense pas, parce que ma photographie, c'est pas vraiment un élément de ma vie spirituelle. C'est plutôt un partage, notamment des portraits des maîtres spirituels. Si vous voulez, imaginez que vous ayez aujourd'hui un portrait de Socrate ou de Saint François d'Assise. Ça serait quand même pas mal. Moi, j'aurais bien aimé voir la tête qu'ils avaient. Non, mais franchement. Mais c'est vrai que la plupart de mes grands maîtres que j'ai rencontrés il y a 50 ans ne sont plus de ce monde. Et c'est inestimable de voir quelle était leur apparence physique, leur regard. Il y a quelque chose qui émane de cette présence incroyable de qualités humaines, des qualités qui émanent de leur visage, de leur posture corporelle. Et c'est vrai que de pouvoir avoir ça à disposition, pour moi, je suis très heureux d'avoir pu le faire.
Alors là, l'exposition que vous présentez, Contemplation, c'est une quarantaine de photos qui ont été prises à des époques totalement différentes, puisqu'on voit de 1983 à 2017. Donc c'est comme si le temps était totalement, n'existait pas ou était totalement étiré.
Si, il existe fort bien, parce que depuis le moment, j'ai fait un livre aussi qui s'appelle Un demi-siècle dans l'Himalaya, et je vous assure qu'à 72 ans, le demi-siècle, il est passé et qu'il n'y en aura pas un deuxième.
Oui, mais en tout cas, vous êtes toujours là.
En jeu.
Vous êtes toujours là pour les photographier.
Oui, mais il y en a qui sont plus en vie, malheureusement. Donc, si vous voulez, c'est pas une question de figer le temps ou de. C'est rassembler des moments particulièrement inspirants, dont j'ai été le témoin, que je peux partager au travers du temps. Et je suis très heureux de pouvoir offrir ça aux yeux de ceux qui les regardent. Et en même temps, je voudrais vous dire que très franchement, la motivation qui m'a décidé à accepter cet événement, à venir depuis le Népal où je m'étais tranquillement retiré depuis l'année dernière, c'est malgré tout le fait que si ces photos sont acquises par d'autres personnes, que ça ira pour soutenir nos projets humanitaires, car on a ces chaînes aujourd'hui et 300 000 personnes en Inde, au Népal et au Tibet, dans le domaine de la santé, de l'éducation des femmes, de l'éducation. Et c'est vraiment la seule chose qui me fait encore un peu bouger de mon ermitage.
Oui, mais ce n'est pas n'importe quel procédé artistique que vous utilisez. La photographie, vous la connaissez depuis vos 13 ans à peu près, depuis l'acquisition de votre premier appareil.
Effectivement. Et d'ailleurs,
depuis des rencontres aussi que vous avez faites jeune.
Et à l'époque, on disait, Mathieu, il ne faut pas compter sur lui pour les photos de famille, il photographie des flaques d'eau. Après, je me suis mis à photographier les fleurs. C'est un ami qui est photographe animalier, un des pionniers de la photographie animalière
André
en France,
Fatras.
Qui m'a appris la photo. Et puis voilà, je suis parti, donc c'est devenu l'Himalaya, c'est mon domaine, quoi.
Il y a eu aussi Cartier-Bresson et ces gens-là qui étaient dans l'entourage de votre mère.
Absolument. Alors, il avait vu quelques-unes des diapositives quand j'étais jeune. Je me rappelle notamment un portrait que j'aimais beaucoup d'une jeune fille avec de la buée au travers d'un carreau. Il a regardé ça en me disant, bah, franchement, c'est plutôt nul. Et quand je vois ça maintenant, je suis tout à fait d'accord avec lui. Et puis, bien plus tard, dans les années 2000, quand j'ai fait mon premier livre de photos aux États-Unis puis en France, il a longuement regardé les épreuves. Et je partais en Inde et je lui ai dit, est-ce que tu pourrais faire un petit mot? Et puis quand je suis arrivé en Inde, il n'y avait pas d'email à l'époque. Il m'a envoyé un fax en disant, voilà, j'étais promené dans le jardin du Luxembourg et cette phrase m'est venue. Les photos de Mathieu et son appareil, sa vie spirituelle ne font qu'un, de là naissent ces images fugitives et éternelles. Je ne pouvais pas rêver mieux de la part de quelqu'un qu'on a appelé l'œil du siècle, qui parlait du moment décisif. Et c'est vrai que c'était un immense photographe. Et il y a une phrase de lui qui me reste beaucoup, c'est que on ne prend pas les photos, c'est les photos qui vous prennent. Et c'est vrai que ça sert à rien de prendre une photo si la lumière est pas là, si rien ne vous inspire, mais à un moment donné, boum, ça vous saute à la figure, il y a un visage, un moment, un instant, un paysage, une lumière qui peut durer 30 secondes. Et là, vous savez que c'est une image exceptionnelle, un moment magique. Et si on a les appareils pas trop loin, on fait la photo.
Alors, est-ce que ces images, justement, qui sont faites par le photographe, vous ou un autre, est-ce que ce sont des images, justement, projetées ou est-ce que c'est finalement le monde intérieur qui apparaît parce qu'à ce moment-là, on a vu?
Je crois que l'œil s'éduque, et moi je m'éduque beaucoup en regardant d'autres photographes. Parfois je passe 10 minutes à regarder une photo qui précisément m'impressionne beaucoup et je m'imprègne. Je peux pas dire de quelque chose en particulier, ça soit la composition, les jeux de lumière, la couleur, mais il y a quelque chose dans l'ensemble qui éduque mon œil. Et c'est vrai qu'on voit mieux peut-être, plus facilement, une composition, un jeu de lumière qui attire le regard du photographe et qu'on peut mettre en valeur et partager par la suite.
Alors dans vos photos, on retrouve la nature, des grands paysages. Alors il y a aussi des portraits. La nature, elle faisait partie aussi des peintures de Yann Le Tumelin, de votre mère. Est-ce que justement, il y a quelque chose de ces images de l'enfance que vous avez aimé retrouver dans ce paysage de l'Himalaya?
Alors ma mère faisait ce qu'on appelle de l'abstraction lyrique, des peintures très belles, surtout l'aspect de lumière et de couleur. D'ailleurs, son livre s'appelle « Lumière, rire du ciel », donc c'est bien tout pour la lumière. Elle dit « nous n'allons pas retourner poussière, mais nous dissoudre en lumière », elle dit souvent. Donc je crois que cet aspect de peindre avec la lumière, puisque moi je ne sais pas dessiner, donc je n'ai pas les dons d'artiste de ma mère, c'est un peu l'idéal du photographe, c'est de pouvoir peindre avec la lumière. Alors je ne prétends pas avoir atteint à ce niveau, mais c'est un peu la démarche que j'ai essayé de suivre.
Alors là, dans le choix des photos sélectionnées, il y a beaucoup de noir et blanc.
Alors, il n'y a que de noir et blanc. C'est pas... Moi, je suis plutôt un photographe de couleur, mais mes amis qui ont organisé cette exposition souhaitaient que... J'ai fait un livre en noir et blanc qui s'appelait « Visage de paix, terre de sérénité ». Et ça m'a été inspiré par Sagaldo dans son ouvrage qui s'appelle « Genesis ». Et quand j'ai vu la couverture d'un paysage magnifique au Canada, d'une vallée avec une lumière extraordinaire, je me dis, il photographie évidemment en digital avec des photos, donc il convertit en noir et blanc. Il y a le même travail à faire que avant on faisait en chambre noire, et donc j'ai essayé par curiosité de travailler mes photos en noir et blanc. Et effectivement, il y a des photos que j'ai redécouvertes au travers du noir et blanc, et donc c'est celle-là qui constitue cette exposition contemplative. Mais en fait, fondamentalement, je suis un homme de la couleur.
Alors, est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse, justement, le travail technique, le travail scientifique, la matière qui est mise à l'ouvrage aussi dans le travail de la photographie?
Alors là, il y a...
La technique?
Donc, effectivement, travailler les photos, c'est un peu comme on faisait à l'époque en chambre noire, avec des masques, etc. Donc, c'est un côté, effectivement, d'exploration. Comment, si vous voulez, l'idée qu'on va trafiquer les photos, ça m'a toujours été étranger. Quand vous voyez un paysage, souvent vous voyez le résultat de la photographie, c'est pas ça que vous avez vu, c'est pas l'impression que vous avez eue, c'est pas l'émotion que vous avez ressentie. Donc quand je retravaille mes photos, j'essaie de faire revivre, en augmentant un peu les contrastes, en jouant sur les lumières, revivre ce que j'ai ressenti, et me dire, voilà, c'est ça que j'ai vu, en tout cas c'est ça que j'ai vu subjectivement. Donc voilà la photo à laquelle je suis arrivé, le rendu auquel je suis arrivé représente mon expérience.
Donc c'est la photo intérieure que vous cherchez?
Un petit peu, l'image intérieure. Et puis on a, ces photos sont imprimées sur un papier japonais qui s'appelle l'awagami, qui est fait à la main, qui a un côté un peu rugueux, mais qui a aussi un côté, ça ressemble un peu à des aquarelles. Et c'est une famille, il y a 6 générations de fabricants de papier manuel. Ça prend 6 mois pour avoir les papiers après qu'on les ait commandés. Donc c'est vraiment un artisanat. Et curieusement, ça ressemble beaucoup à ce qu'on appelle le papier de riz au Tibet et en Inde, qui n'est pas fait du tout avec du riz, mais avec des racines et des écorces d'arbres, mais qui est du papier fait à la main, qui dure éternellement, parce que les insectes ne le mangent pas, ils ne se décomposent pas, il n'y a pas d'acide. Et donc c'est curieux, c'est presque imprimé sur des papiers tibétains, sauf qu'il est fait au Japon.
C'est vous qui avez décidé le choix de ce matériau?
Alors, quand, la première fois que ça m'a été proposé, j'ai trouvé ça magnifique, parce que ça, on trouvait ce côté peinture. Et donc, j'ai été très enthousiaste quand il était décidé de faire cette exposition sur ce papier.
Alors, c'est pas pour rien que vous choisissez quand même de photographier la nature, parce que la nature, c'est un sujet qui vous intéresse bien des points de vue.
Ah ben moi, je suis un homme de nature. Au bout de 3 jours dans une ville, là, je prends la peau d'escampette. Mais en fait, dans mon travail photographique, si on peut dire, il y a aussi énormément de portraits, non seulement les maîtres spirituels, mais des enfants avec un regard lumineux, des vieillards édentés, adultes qui ont l'air rayonnants au Tibet. Donc c'est vrai, là, c'est cette exposition de contemplation, il y a quelques maîtres spirituels, mais c'est surtout centré sur le paysage, parce que la contemplation, c'est vrai, c'est un côté très vaste. C'est pas une œuvre de portrait. Mais dans, par exemple, dans Anne Michel dans l'Himalaya, il y a énormément de portraits, notamment des personnes que j'ai suivies pendant 50 ans, de l'âge de 2 ans jusqu'à l'âge de 52 ans.
Alors dans la question justement de la nature et de l'écologie, c'est des enjeux qui sont un peu au centre de vos préoccupations depuis de nombreuses années. Vous avez écrit sur les animaux, vous avez écrit justement sur ces sujets-là. Alors qu'est-ce qui fait qu'un sujet devient un objet photographique ?
Je crois que j'ai du mal à montrer. Bon, si vous voulez, j'ai vu l'Himalaya fondre, hein, le troisième pôle. Il y a quand même 2000 glaciers en Himalaya qui fondent plus vite que les deux autres pôles. Ben ça, c'est pas facile à montrer. On va avoir une photo scientifique, on voit le recul des glaciers. Bon, ça, c'est pas mon truc. Mais susciter l'émerveillement pour ces hauts plateaux des toits du monde, pour l'Himalaya en général. Et à l'occasion, justement, de parler de ce grand défi du 21e siècle, il n'y a pas de plus grand défi que celui de l'environnement. Parce qu'on parle des réfugiés, mais si vous avez 250 millions de réfugiés climatiques, ça va être une autre histoire. Et puis, je veux dire, si on va vers la 6e extinction des espèces, ça va être une autre histoire, même pour l'humanité. Donc il y a un défi qu'on peut relever, on a les moyens techniques, simplement il y a un manque de volonté politique, en dépit de la COP21 qui a pas mal marché, mais enfin c'est quand même pas suffisant. Donc si vous voulez, moi, qu'est-ce que je peux faire, à part en parler un peu, et montrer la beauté de cette nature, ça serait quand même pas mal qu'on ne saccage pas tout, et que les générations futures disent « vous saviez, pourtant vous n'avez rien fait ». C'est à peu près ce qu'ils vont dire. Donc c'est un peu à la fois tirer la sonnette d'alarme, mais pas en étant constamment dans le négatif, mais en essayant d'inspirer pour apprécier ce qui est et ce qui est encore préservé et qu'on peut encore préserver si on s'y prend à temps. Mais il y a des points de bascule, il y a des moments où ça risque d'être trop tard.
Vous parliez de projection sur la réalité. Comment est-ce que, justement, on prend une photo qui serait le portrait de quelqu'un dont on sait qu'on ne va pas saisir ni son âme, ni ce qu'il est? Mais comment est-ce qu'on se débrouille avec ce réel-là quand on prend une photo, Mathieu Ricard?
Si vous voulez, le regard est la fenêtre de l'esprit, finalement. Et c'est vrai que moi, j'ai beaucoup photographié les regards de mes maîtres spirituels. Et c'est d'ailleurs un film d'Arnaud Desjardins, ce qui s'appelle « Le message des Tibétains » en 1966, que j'avais vu. Et la dernière 5 minutes du film, c'est 30 visages en silence qui vous regardent droit dans les yeux de 30 ermites et maîtres spirituels. Et moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit « J'y vais, je pars dans l'Himalaya ». Et donc, voilà, j'ai une collection de photos aussi de maîtres spirituels. Et ces regards, je crois que malgré tout, il y a quelque chose qui passe de cette extraordinaire qualité humaine qu'il représente, de sagesse, d'amour altruiste, de compassion, de paix intérieure, de liberté intérieure.
Alors vous, dans ce film, ça a été les prémices de la rencontre, puisque vous êtes allé les rencontrer, ces maîtres,
oui,
dans l'Himalaya. Alors est-ce que ça serait ça, un portrait? Ça serait peut-être le début d'une rencontre?
Ben c'est vrai, mais toutes premières photos, c'était des portraits de ces maîtres, en 1967. Et dans des conditions, d'ailleurs, je me demande comment elles sont réussies. J'avais du Kodachrome 25 ASA, dans la pénombre d'une petite chambre avec une petite lucarne. Je me demande comment elles existent, ces photos. Parce que techniquement, aujourd'hui, ben, c'est pas possible. Comment elles peuvent être... Toujours est-il que pour moi, c'était le début de cette transmission d'inspirer au travers de ces images.
Comment est-ce que eux se sont laissés photographier?
Alors,
Mathieu Ricard.
Ça les amuse d'un certain point de vue. On leur demande de faire un portrait, on leur demande la permission. Mais mon deuxième maître, qui s'appelait Diego Kanser Rinpoche, que j'ai vécu 13 ans auprès de lui, je l'ai énormément photographié, j'ai consacré un livre à lui. Pour vous dire, franchement, il n'a jamais posé. C'est-à-dire qu'il me laissait faire, pas en m'ignorant, mais vous savez que j'étais là, c'était comme un... Voilà, on voit tellement les gens qui reprennent une posture, qui essaient un peu de montrer leur meilleur angle.
C'est l'auto-mise en scène.
Qui font un tout petit peu attention pour la photo. Lui, ça ne le dégênait pas, il ne cherchait pas, je le prenais en photo, ça ne le dérangeait pas non plus. Mais jamais il n'a modifié son comportement pour la photo. Ça vous dit à quel point on peut être libre du narcissisme et de ne pas être auto-centré.
On va l'écouter.
Comme le dit Shantideva, sache que les émotions contrariantes peuvent être dominées par une vision claire et un état de calme. Tout d'abord, recherche la paix de cet état de calme. Cela peut être atteint par la joie et par le détachement des choses de ce monde. Et comme le dit le Bouddha, le bonheur survient par le contrôle de ton propre esprit. Le contrôle de l'esprit est excellent. Lorsque tu es initié aux enseignements pour la première fois, il est important de commencer par apprendre à contrôler ton esprit. Ce que nous appelons esprit est l'ensemble de ces pensées qui sont mues par une turbulence intérieure. Cet esprit fait suite au passé, anime le futur et est séduit par les choses et situations du présent. À moins que tu ne domptes cet esprit par quelques méthodes pour atteindre le calme, il ne demeurera jamais tranquille. Voilà pourquoi tu dois t'entraîner à devenir paisible. Graduellement, à travers une vision claire et avec la sagesse qui permet d'atteindre l'absence d'ego, nous pouvons comprendre, expérimenter et réaliser l'étape finale du chemin.
C'est votre maître qu'on entend dire.
Oui, comment avez-vous cet enregistrement? Mystère.
On vous fait des surprises.
Alors, j'ai enregistré 375 heures de ces enseignements, dont celui-là certainement. Et à l'époque, tout le monde me disait « Oh là là, il est encore là avec son petit enregistreur, bon marché ». Et maintenant, du monde entier, les Tibétains me demandent des copies de ces enregistrements parce que c'est unique d'avoir 370 heures d'un très grand maître qui enseigne. Et voilà. Et c'est vrai que sa voix, il enseignait comme un fleuve. On avait l'impression que la limitation, c'était le temps et sa bouche, mais qu'il aurait pu enseigner pendant 12 heures d'affilée sans hésitation, comme un grand fleuve qui se déroule. C'était extraordinaire. Son érudition et sa connaissance, sa réalisation spirituelle étaient uniques, à tel point que même le Dalai Lama, encore une fois, l'a pris comme maître.
Alors, est-ce que la photographie, les enregistrements, c'était un moyen aussi pour vous de documenter l'enseignement de ces maîtres, de préparer un travail d'archive qui serait aussi travail de transmission?
Ben, mon bureau, ce que j'appelle mon bureau au monastère de Sechen au Népal, ça s'appelle Sechen Archive, c'est les archives de Sechen. J'ai 25 000 images sur l'art tibétain que j'ai photographié au cours de 50 ans, qui sont différentes de ma collection de photographies, disons, soi-disant artistiques. Et puis, il y a tous ces enregistrements, donc presque 400 heures. Il y a une centaine d'heures de documents filmés sur la fin de la vie d'Igo Khyentse Rinpoche. Et donc tout ça est mis à disposition de tous ceux qui souhaitent avoir accès à ces documents.
Mais Mathieu Ricard, quand vous les avez photographiés, vous n'avez pas simplement pris des photos témoins. Vous avez choisi les angles, choisi la manière, choisi l'appareil peut-être.
Non, mais les photos, c'était vraiment... Si, c'était quand même l'idée de... C'est un moment extraordinaire, unique et... C'est pouvoir le sortir de ce moment pour qu'il reste pour les autres. C'était vraiment cette idée-là. Parce que moi, souvent, je vous avoue franchement, j'aurais souvent mieux profité de ces instants si je n'avais pas pris des photos. Être tranquillement là, participer à une cérémonie, à un enseignement, sans sortir mon appareil, embêter tout le monde. Je veux dire, j'embêtais le moins possible, d'être le plus discret possible. Mais du point de vue personnel, j'aime beaucoup mieux me recueillir, être en sa présence de mon maître, que de faire un portrait. Simplement, je me disais, c'est tellement beau, c'est tellement inspirant. Comment ne pourrais-je laisser ce moment s'en aller et que personne d'autre que moi, aujourd'hui, le voit?
Alors, comment vous faisiez? Très pratiquement, comment vous faisiez pour prendre ces photos-là? Où est-ce que vous vous mettiez? Est-ce qu'il y avait une manière, justement, de pouvoir s'approcher?
En ce qui concerne, justement, la personne dont on a entendu, Igo Khyentse Rinpoche, j'ai été son intendant pendant 13 ans. Donc, je dormais par terre dans sa chambre la nuit. Je l'ai accompagné partout, au Tibet, 3 fois. Je suis venu avec lui en Europe. Donc, j'étais tout le temps avec lui. Et donc, il y avait des moments, quand il enseignait, j'étais là, je recevais tous les enseignements dans un petit coin, puis il y avait, à un moment donné, il y avait en même temps une belle lumière ou quelque chose, ou des gens en face de lui, une rencontre magnifique avec un disciple, puis je sortais mon appareil, je prenais 3-4 photos. À l'époque, en plus, j'avais pas un sou, donc je faisais 10-15 rouleaux par an, donc les photos, je les comptais au compte-gouttes. On devait envoyer les Kodachrome à Bombay pour les développer. Il revenait 2 mois plus tard, je vous jure que le jour où ces 2 petites enveloppes jaunes revenaient, c'était un moment où je dépouillais, je regardais mes 72 diapos. C'était un moment formidable. Maintenant, on prend des photos tac, 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 boum, boum, du matin au soir. Ça, c'est plus la même chose.
Mais justement, pour vous, il fallait choisir, il fallait réfléchir, il fallait saisir.
Alors, je ne prenais une photo que quand vraiment, je disais, ça, c'est pas possible, je peux pas prendre cette image. C'est trop beau, c'est trop inspirant.
Alors ça, c'est quoi, justement?
Ça, c'est ce que dit Cartier-Bresson, les photos vous prennent. Et à un moment, on dit, voilà, c'est un moment extraordinaire, je vais pouvoir, encore une fois, le sortir de ce moment pour... Si vous êtes devant un magnifique paysage, un coucher de soleil sur les montagnes, vous avez envie que vos meilleurs amis soient là, mais pourquoi pas encore plus que vos meilleurs amis? Pourquoi pas étendre le cercle de ceux qui peuvent être inspirés par ce dont vous avez été témoin? En dehors du caractère purement historique, comme les films d'Arnaud Desjardins et certains de mes photos, c'est un peu le mieux que l'on puisse connaître de ces personnes maintenant qu'ils ne sont plus en vie. Il y a leurs écrits, il y a le son de leur voix, et puis il y a les images. C'est les traces qu'ils ont laissées pour nous.
Alors ces photos que vous avez prises justement des années 80 à aujourd'hui, est-ce qu'elles
sont... Les années 60 en fait, c'est sur cette exposition c'est des années 80.
Sur cette exposition.
Mais en Inde, je photographie de 1967.
Est-ce qu'elles sont le signe d'une transformation? Est-ce que vous, quand vous les voyez, elles sont le signe d'une transformation? Vous vous intéressez aux neurosciences contemplatives, à l'entraînement du cerveau, à ce qui peut changer dans ce cerveau. Est-ce que cette transformation-là, vous la voyez aussi dans vos photos?
Alors j'ai pas photographié moi... mon cerveau, mais disons, en tout cas, c'est certain que, heureusement, j'ai l'impression quand même d'avoir un tout petit peu érodé certains de mes défauts principaux, d'avoir cultivé un peu de bienveillance, de mieux me mettre au service des autres. Bon, heureusement, en 50 ans, j'ai essayé de progresser un petit peu.
Mais ça se voit sur ces photos?
Alors, mon œil photographique, quand je vois des photos que je faisais il y a 50 ans, et que j'avais déjà mis dans une agence à l'époque avant de partir en Inde, mais je me suis dit, mais comment j'ai osé mettre des trucs comme ça en agence? Je veux dire, maintenant, j'aurais tout mis à la poubelle, franchement. Donc, c'est vrai que j'ai aussi progressé dans ma connaissance de l'image, l'œil peut-être, la façon dont on garde les choses et dont on sait prendre une photo. C'est un métier. Finalement, moi, j'écris pas mal de bouquins, mais je suis pas un écrivain né, si vous voulez. Je suis pas un styliste, je suis un scientifique. Pendant 25 ans, j'ai quasiment pas parlé français, déjà pour commencer. Et la photo, c'est un peu mon métier, je sais faire.
En tout cas, c'est un fil conducteur de votre raison à aujourd'hui?
Oui, ben oui. Ben, voilà, c'est pas le fil principal. Encore une fois, ça m'arrive de pas prendre de photos pendant 3 mois. S'il y a rien à prendre, pourquoi je sors pas mon appareil?
Et la technique là-dedans, est-ce que la technique, elle vous intéresse pour elle-même? Je veux dire, est-ce qu'elle vous intéresse parce que justement, elle va être au service de cette beauté-là?
Oui, parce que si vous voulez passer au-delà de certaines limitations, c'est en prenant des gens qui maîtrisent la technique. Je me rappelle quand j'ai fait un livre qui s'appelle Voyage immobile, où je suis resté un an dans mon ermitage sans bouger, j'ai fait ce livre. À un moment donné, je me suis dit, bon, j'ai tout photographié, toutes les heures du jour, mais je n'ai pas fait la nuit. Donc j'ai expérimenté pour photographier des paysages de brume dans la vallée sous la lune, les étoiles qui bougent. Donc ça, c'est vrai que entre amis photographes, moi c'est une sorte de complicité avec d'autres amis photographes, eh bien on profite de l'expérience des uns des autres et on apprend de leurs propres expériences, on se perfectionne techniquement et ça permet finalement de pouvoir offrir l'image la plus belle possible. Et c'est vrai que quand il y a un défaut technique, c'est dommage. Quand on voit des gens, on dirait « Ah, c'était tellement beau cet endroit, mais dommage qu'ils n'aient pas su faire ce qu'il fallait pour que ça ressorte de la meilleure façon possible. »
Alors la photo, il y a celui qui la prend, celui qui la regarde. Qu'est-ce que vous imaginez de l'exposition, des scénographies? Là, vous avez choisi une structure justement architecturale avec Simone Vélez. Il y a tout un travail qui a été fait d'exposition.
Alors ça m'était proposé, disons. Hein. J'ai accepté très volontiers. C'est pas mon idée, mais je suis très heureux d'y participer.
Ça vous intéresse, la manière dont s'exposent les photos, dont elles vont pouvoir être observées, si elles sont dans la nature, si elles sont dans un lieu?
C'est vrai que c'est quand même plus inspirant que, je sais pas, de voir ça sur des murs blancs, parce qu'il y a, le quartier du bambou, c'est un élément naturel, ensuite que ça laisse passer la lumière.
Il faut expliquer, ça c'est le projet architectural.
Le projet architectural de Simone Vélez, c'est une grande structure en bambou de 1000 mètres carrés, mais il y a des ajours, donc on voit la lumière qui passe. Donc c'est vrai, il y a une qualité de lumière un peu plus magique. Et puis, moi, j'aime bien exposer dans la nature. Là, je reviens de Sentier des Vosges, organisé par un très grand photographe de nature, Vincent Munier, qui tous les ans fait un photographe dans la forêt. 2 kilomètres de forêt, il y a des photos exposées. Donc ça me convient très bien parce que la nature revient à la nature.
Et finalement, l'expérience artistique dans tout ça, est-ce que elle est une forme de spiritualité, comme on a pu entendre dans le texte de René Guénon? Est-ce qu'elle n'est qu'un support? Est-ce que vous avez fait l'expérience de la spiritualité qui est dans l'art lui-même?
Disons, je le fais pas dans mes photographies, mais quand je vois des peintures tibétaines qui sont des supports de méditation. Et dans mes images, c'est principalement les maîtres spirituels. C'est vrai que j'ai beaucoup des photos de mes maîtres, celles que j'ai faites et que d'autres ont faites, qui sont tout le temps qui m'accompagnent partout dans ma chambre, et qui, de le voir encore et encore et encore leur visage et leur regard, c'est une source d'inspiration constante.
Comme une répétition?
Ça ravive des moments extraordinaires passés en leur présence. Et du coup, ça lance tout un moment où je revis cette présence et la qualité qu'elle m'inspire de moi-même d'essayer d'approfondir la sagesse et la compassion de mon mieux. On dit que, je sais pas, de méditer en présence d'un maître spirituel pendant quelques minutes, c'est aussi bien que méditer tout seul pendant un mois.
Merci Mathieu Ricard d'avoir été notre invité aujourd'hui. L'exposition Contemplation, dans laquelle vous proposez 40 photographies prises entre 1983 et 2017, est visible jusqu'au 23 septembre à Arles, un quai de la gare maritime. Deux soirées musicales, concerts, méditations sont également prévues au Théâtre Antique d'Arles les samedis 23 et dimanche 29 juillet à 20h30 et ils seront accompagnés par la pianiste Maria-Joan Pierres. L'émission d'aujourd'hui a été préparée par Julien Rosa, Arjuna Andrade, Louis Drillon, Anne Toscane Viudès et Anne-Olivia Marchaison. À la réalisation Marie Placé, à la technique Jean-Guilain Meige. Je vous rappelle que cette émission est disponible en réécoute et en podcast sur le site franceculture.fr.